explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Le temps d'un bivouac.
C'est un animal particulièrement discret, réputé quasi invisible, qui hante les forêts du Jura. Tous les passionnés de nature le savent, apercevoir un lynx est une chance. Beaucoup de photographes partis à sa recherche sont rentrés bredouilles. Mais il en aurait fallu davantage pour décourager Laurent Gélin. Depuis qu'il s'est installé dans le canton de Neuchâtel en Suisse, il y a une dizaine d'années, le photographe animalier a fait du discret félin son obsession. En toute saison, il arpente la forêt jurassienne avec l'espoir d'une rencontre fugace. Des jours et des nuits à relever des traces, à guetter les indices et à tendre l'oreille. À force de patience et d'entêtement, Laurent Gélin a réalisé de superbes images de l'animal. Il l'a d'abord photographié, puis il s'est mis en tête de lui consacrer un film entier. À sa connaissance, cela n'avait jamais été fait avec des lynx sauvages. Il lui aura fallu plusieurs années sur le terrain pour mener à bien son projet, et le résultat est à la hauteur de l'attente. Un film sublime, sobrement intitulé « Lynx » à découvrir au cinéma depuis mercredi. L'occasion pour nous de partir avec Laurent Gélin cet après-midi au cœur du Jura sur la piste de celui que l'on surnomme le fantôme de la forêt. Et en fin d'émission, des falaises de la côte d'Albâtre aux gorges du Verdon, notre ami passionné de géologie Georges Fetterman nous racontera comment l'eau a sculpté les paysages de nos régions. Voilà pour le programme de cette émission réalisée par Stéphanie Texier, préparée par Claire Tesser, avec à la technique aujourd'hui Louis Audebert. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
J'ai eu la femelle qui est venue. Elle est arrivée par le chemin du bas. Et elle s'est posée à, je sais pas, 60, 70 mètres, 80 mètres. Et elle a appelé.
Bonjour Laurent Gélin.
Bonjour Daniel.
On vous entendait à l'instant sur le terrain dans la neige. C'est vous qui avez enregistré les cris de cette femelle lynx que l'on entend derrière nous. Après plus de 10 années passées sur la trace de cet animal dans le Jura, vous semblez toujours autant émerveillé à chaque fois que vous croisez sa route.
Ah oui, c'est complètement une merveille parce que c'est un animal que... Ça fait 12 ans en fait précisément que je travaille sur l'animal. Et effectivement, je le vois très très peu. En réalité, je le vois peut-être 8-10 fois par an. Et si je réussis à le filmer 4-5 fois, c'est déjà beau. Alors avec des images images qui tremblent pas, parce que forcément quand vous avez pas vu l'animal pendant 6-8 mois,
l'émotion est intense.
Vous avez un peu d'émotion, exactement. Vous avez même parfois des scènes qui se passent devant vous et vous les réalisez juste avec l'œil dans la caméra. Donc des jeunes chatons qui rentrent dans le cadre alors que vous êtes en train de filmer la femelle, mais vous y attendez pas, ou une scène de chasse qui se passe devant vous, c'est juste quelque chose où faut vraiment rester très très stable.
Et votre film démarre justement avec l'appel d'un mâle, le cri d'un mâle lynx, et la femelle qui répond. Mais rien que cette scène qui correspond aux amours du lynx, mais c'est plusieurs années de travail en fait.
Oui, alors ça c'est vraiment un montage de Laurence Buchmann qui a fait un travail de fou, hein. C'est la monteuse du film. Effectivement, la première séquence où on voit le mâle qui appelle, c'est un affût que j'ai installé en mois de janvier, dès tout début de la période de reproduction, et j'ai arrêté mi-avril. Et j'y suis allé tous les jours. Je l'ai entendu plusieurs fois, mais je ne l'ai filmé que 2 fois, un matin et un soir sur 3 mois.
Et la femelle qui répond, c'est plusieurs années après que
oui,
vous...
Oui, alors là, la femelle après, j'étais fou parce que c'était pendant le montage en fait. Ouais. C'était vraiment pendant le montage et là c'est pareil, j'avais enfin la réponse entre le mâle et la femelle.
Ouais. Alors c'est dans le Jura suisse que vous avez filmé, les images du film sont absolument sublimes. Prenez le temps de nous décrire cette forêt jurassienne de moyenne altitude.
Alors moi j'ai la chance de travailler sur une zone de Neuchâtel effectivement qui en plus gère une forêt qu'on appelle la forêt jardinée. C'est un Suisse il y a un siècle et demi qui a mis en place cette gestion de forêt avec différentes essences. On laisse les arbres mourir, on produit du bois et d'ailleurs ça produit tout autant que des grosses forêts avec de la monoculture. Par contre beaucoup plus riche avec une biodiversité extraordinaire.
Le lynx avait un temps disparu du Jura. Quand et pour quelle raison?
Alors en fait, la forêt, justement, on détruisait terriblement la forêt il y a plusieurs siècles. On a plus de forêts maintenant qu'il y a 2-3 siècles. Hein. On a plus d'arbres maintenant, en réalité, en termes de superficie. Et par conséquent, il y a un siècle et demi, il n'y avait plus beaucoup de forêts. Et évidemment, beaucoup moins de proies. On chassait également les animaux, hein, on pouvait les tirer. Donc le lynx faisait partie de ces animaux qu'on chassait. Donc il avait totalement disparu il y a un siècle et demi.
Et il a été réintroduit, il a commencé à être réintroduit dans les années 1970 en Suisse. La Suisse est vraiment pionnière dans ce domaine. Et précisément dans le canton de Neuchâtel, des couples de lynx ont été relâchés, notamment grâce à l'action d'un passionné de nature, écologiste avant l'heure, Archibald Cartier. Il était responsable de la pêche et de la chasse dans le canton de Neuchâtel. C'est vraiment un plaisir de l'écouter. Le voici, en 1986, évoquant son action dans la réserve neuchâteloise du Creux du Vent.
Dans cette réserve du Creux du Vent, il y avait une cinquantaine de chevreuils, 200 chamois à peu près, et 2 douzaines de bouquetins, tous les herbivores. Puis c'est là que j'ai dit, il faut mettre des prédateurs. C'est ce que les gens appellent des bêtes féroces. Alors la règle, on ne peut mettre que des bêtes qui ont vécu dans le pays. Alors il y avait des ours, des loups et des lynx. Avec les lynx, c'est bien allé. Le secret a été gardé au moins 2 ans. Mais tout d'un coup, les Neuchâtelois sont bien voir des bêtes, comme ils disent. On me téléphonait, j'ai vu une bête. Je disais, t'as comment cette bête? Des oreilles, là, que, ouh, je peux pas vous dire, la mère méchant! Il y en a eu des tas d'histoires dans vos sacrés journaux, des lettres de lecteurs. Une vieille dame qui a écrit qu'elle voulait pas qu'on lâche des larynx dans le canton de Neuchâtel. Des gens qui savent tout. Alors, ces lynx, ils allaient tout manger, tout bouffer, etc. Mais malheureusement, j'ai pas pu les prendre par l'oreille, les mener vers les écriteaux de la réserve, puis lui dire, tu sors pas. Alors, bien sûr, ils sont allés sur Vaud, ils sont allés au Jura bernois, ils sont allés sur France, partout. Maintenant, il y en a une trentaine. C'est pas du tout mal allé avec ces lynx. Jamais une chèvre, jamais un mouton. Bien entendu, jamais un Neuchâtelois.
Archibald Cartier, pionnier de l'écologie, décédé en 1996. Vous confirmez, Laurent Gélin, le lynx ne s'attaque pas ni aux chèvres, ni aux Neuchâtelois, ni aux humains en général?
Alors aux humains, non. Moi, j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'avoir la femelle qu'on voit dans le film, d'ailleurs, qui s'est approchée de moi par derrière. Je savais pas, en fait, qu'elle s'approchait de moi. J'étais en train de regarder devant moi. J'étais sous un filet de camouflage et j'entends derrière moi un bruit que j'avais déjà entendu une seule fois d'un mâle et une femelle face à face. Et ça fait un peu... Et en fait, je me retourne tout doucement. Et là, j'ai la femelle qui me regarde avec des yeux grands comme des billes. Et en fait, elle savait pas ce qui se passait sous ce filet de camouflage. Et puis, dès que j'ai sorti la tête du filet, évidemment, elle est partie sans du tout m'agresser.
Ouais, donc, ça ne s'attaque pas aux humains, ça s'attaque pas non plus aux animaux d'élevage.
Oui, alors il y a effectivement. Alors, heureusement, dans le Jura, on n'a pas des gros élevages d'ovins. Donc, dans le département de l'Ain, il y a un petit peu plus de soucis. C'est vrai que c'est par contre un animal qui est très très facile à effaroucher. Il suffit d'un chien par exemple et le problème est assez vite réglé.
Et l'idée de la réintroduction, c'était vraiment de réguler justement, puisqu'on avait réussi à réintroduire beaucoup d'herbivores dans cette région, il fallait un prédateur. Et finalement, le loup et l'ours, ça faisait plus peur que la réintroduction du lynx. Même si elle a été faite un peu en catimini, hein, c'est ce que disait Archibald Cartier, pendant 2 ans, on l'a pas dit.
Alors la Confédération, effectivement, avait donné son accord en 67. Donc ça, en fait, les premiers lynx ont été relâchés dans l'Oberland bernois, en réalité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est par le chef des chasseurs et par l'ingénieur forestier. Donc c'était vraiment pour gérer la forêt, c'était pas du tout pour avoir un bel animal qui se balade dans la forêt. Et effectivement, Archibald Cartier a remis cette idée-là sur le canton de Neuchâtel et ça a vraiment très bien fonctionné.
Ouais. Vous a fait rêver, hein, quand vous étiez petit, que vous avez entendu parler de ces réintroductions de lynx. Ça a vraiment enflammé votre imaginaire.
Ah, moi, j'étais tout gamin, j'entends parler d'une réintroduction dans les Vosges. Parce que moi, en fait, à l'époque, c'était dans les Vosges. Et c'était la France qui réintroduisait des lynx dans les Vosges.
Ça, c'était dans les années 80.
Exactement.
Un peu pour suivre l'idée des Suisses.
Sauf absolument.
En France, ça a moins bien marché. Là.
Voilà, c'est des noms qui trottaient dans ma tête. Véronique Ehrenschmidt, Christian Kempf, les pionniers qui relâchent les lynx. Et effectivement, après, je me disais, mais si un jour je vais dans cette région-là, forcément, je dois au moins voir une fois le lynx.
Ouais. Pourquoi dans les Vosges ça a moins bien marché, justement, cette réintroduction au début des années 80?
Ah, le problème, c'est la cohabitation avec les chasseurs. On a une chasse qui est très très différente entre le Jura et les Vosges. On a ce qu'on appelle les chasses à fermer. Dans les Vosges, c'est des zones tout simplement qui sont louées très chères. Il y a beaucoup d'argent. Et évidemment, on n'aime pas trop quand un lynx vient manger les chevreuils des chasseurs.
Alors, on disait que ces histoires de réintroduction d'animaux sauvages, ça vous faisait rêver. Il faut dire que vous, depuis votre Bretagne, déjà vous étiez un passionné de nature. Dès que vous pouvez, vous vous échappez dans la nature pour aller observer la faune locale.
Et moi, je me souviens de chez ma grand-mère, où elle était dans la forêt de Brocéliande, où j'attendais qu'elle allume la télé le soir et elle me croit endormie dans mon lit, pour sortir par la fenêtre en catimini et aller écouter les engoulevents ou alors essayer d'observer les sangliers la nuit. J'adorais ça.
Ouais, entendre bramer les cerfs aussi.
Oui, je me souviens d'une nuit où j'étais au pied d'un arbre, j'étais tout gamin, hein, et je suis entouré par 3 cerfs qui brament et j'entends les sabots d'un qui est là. Franchement, j'en menais pas large. Ouais.
Alors, par la suite, hein, la vocation finalement était assez logique, la voie tout tracée, vous devenez photographe animalier. Vous êtes allé jusqu'en Afrique du Sud, en Namibie, pour observer cette faune sauvage. Et puis, il y a une dizaine d'années, presque par hasard, en fait, c'est pour suivre votre compagne que vous emménagez dans ce canton de Neuchâtel, dans un petit village. Et là, vous réalisez que ce lynx qui vous a fait rêver quand vous étiez petit, il vit à 5 minutes de chez vous. C'est là que commence la quête.
Ah, mais là, en fait, sur le canton de Neuchâtel, je vois des traces dans la neige. Et là, je commence à me prendre au jeu de suivre ces traces et je découvre des traces de lynx. Alors, évidemment, je pensais déjà à cet animal. Mais quand je vois qu'il est à 10 minutes de chez moi, je me dis, là, c'est pas possible. Il faut vraiment faire quelque chose sur cet animal.
Alors, au début, vous l'avez photographié et puis l'idée du film est venue. Pas tout de suite, parce que ça vous semblait presque un graal inaccessible. Il faut dire que, en tout cas à votre connaissance, aucun film de où l'on voit des lynx sauvages n'avait été fait avant que vous vous lanciez dans cette aventure.
Alors, il y a un vidéaste qui a travaillé il y a 20 ans de ça, en suivant des lynx, mais qui avait des colliers émetteurs, Loïc Coat. Et moi, ce documentaire-là m'a fait mais totalement rêver. C'était déjà un travail énorme. Il a mis plusieurs années à faire ça. Mais moi, effectivement, je voulais aller un petit peu plus loin. Je voulais vraiment filmer l'animal sans aucun artifice ou aucune technologie. Donc, effectivement, là, ça m'a demandé encore plus de temps.
Parce que pour qu'on comprenne bien, beaucoup de ces documentaires animaliers où l'on voit des animaux que l'on pense sauvages sont faits avec des animaux en réalité en captivité que l'on sort pour l'occasion du film. Alors ça permet d'avoir de très jolis plans, mais c'est pas ce que vous vouliez faire.
Ah non, mais on les dresse. C'est-à-dire ouais. qu'il y a un film très connu qui est passé au cinéma où en fait les plans du film étaient déjà écrits et donc on a dressé un jeune chaton de lynx avec un faon de façon à ce que 2 ans après on puisse filmer le jeune lynx courir après le faon, enfin la biche en l'occurrence, pour pouvoir croire à une scène de chasse.
Ouais. Alors, ce n'est évidemment pas du tout ce que vous avez fait. C'est beaucoup plus intéressant, mais ça prend aussi beaucoup plus de temps. Des années d'observation, des dizaines et des dizaines de jours et de nuits d'affût pour obtenir les images et les sons de ce film Lynx qui vient de sortir dans les salles. Vous allez nous raconter la véritable aventure que constituent les coulisses de ce film. Laurent Gélin nous emmène bivouaquer au cœur du Jura sur les traces du lynx cet après-midi sur France Inter.
Il y a là la peinture des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures fermées, les serrures comme envolées, les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là là là, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas. Silence sous la mer qui lutte contre le temps. y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les murmures, un soupir, l'aventure, comment mêler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas.
C'était Vanessa Paradis qui chantait Il y a.
Ah, là on s'aperçoit qu'il y a quelque chose, on va peut-être se rapprocher pour voir les traces. Voilà, regardez, il est passé par là. Là on voit la. Voilà, elle est assez bien faite, une belle trace de lynx, donc c'est à peu près, grosso modo, ça tient dans un cercle de 9 à 10 cm de diamètre. Là, on a peut-être une chance sur ce être de voir des traces de griffes. C'est aussi une façon pour le lynx de marquer son territoire, de marquer son passage. En griffant un arbre comme il l'a fait ici, il laisse des traces visuelles, mais également des traces olfactives. Mais en principe, justement, le fait d'avoir des bornes de marquage, donc de visualiser la présence du lynx, soit par les traces de griffes, soit par l'odeur, mais surtout, notamment, le marquage olfactif par l'urine, évite justement qu'il y ait ces conflits entre les animaux. Dès qu'il y a un territoire occupé, il doit aller au-delà de cette zone occupée.
Le naturaliste et écrivain Patrice Redley au micro de l'ami Denis Chessou en 2010 dans le Jura. C'est votre quotidien depuis des années, Laurent Gélin, arpenter la forêt du Jura suisse pour déceler des traces du lynx, tenter de comprendre comment il vit. Comment avez-vous appris à lire ces traces? On imagine que c'est un lent apprentissage.
Oui, c'est assez long parce que au début, effectivement, quand je suis arrivé là, même si je suis naturaliste depuis tout gamin, il y a des tas de choses à apprendre et des milieux à réapprendre. Et par conséquent, j'ai commencé à mettre des pièges photos au début. Alors c'était un projet avec le National Geographic au début, donc j'avais un peu de pression quand même pour mettre des gros pièges photographiques.
Alors des pièges photographiques, ce sont des appareils photo qui se déclenchent quand un mouvement se passe devant lui. Ouais. Bon, on attrape tout, pas forcément des lynx.
Hein. Non, bien sûr que non. J'ai même photographié des personnes qui passaient tout nus dans la forêt. Oui, j'ai fait un petit peu de tout. Mais j'ai fait ça pendant 5 ans pour vraiment avoir des informations sur les individus. En fait, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de suivre certains individus des lynx de façon à connaître leurs habitudes. Ça me permet de savoir sur un territoire qui peut être très grand. Hein. Chez un mâle, ça peut faire 150 km². Donc, c'est vraiment chercher une aiguille dans une meute de foin. Mmh. Et là, du coup, mettre des pièges photos me donnait beaucoup d'informations. Et au fil des années, ça m'a permis de pouvoir me positionner dans certains lieux pour l'attendre et le filmer ou le photographier directement.
C'est intéressant, cette idée que ce ne sont pas des lynx que vous filmez et que vous photographiez, ce sont quelques lynx que vous avez appris à connaître, presque dans leur caractère, dans leur individualité.
Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai un lynx, j'ai un mâle, par exemple, alors que normalement, ce sont des animaux qui sont peu craintifs. En réalité, ils sont tellement bien camouflés qu'à la limite, on peut passer à côté sans les voir. Et normalement, donc, si vous vous arrêtez en les regardant, même à une dizaine ou une quinzaine de mètres, c'est assez régulier que l'animal ne bouge pas et vous regarde calmement. Mais, par exemple, j'ai un mâle juste au-dessus de chez moi qui, lui, est très craintif. Et si je le vois à 150 mètres, s'il me voit à 150 mètres, il va partir. Quoi.
Et puis ce sont tous les indices dans l'environnement que vous avez appris à décrypter pour savoir où vous positionner pour avoir le plus de chances d'observer quelque chose.
Oui, et puis c'est aussi des informations, c'est vraiment tout un dialogue. C'est pour ça que j'aime bien être très longtemps sur le terrain, parce que vous vous rendez compte qu'il y a une communication entre les espèces, par exemple, et ça m'est déjà vraiment arrivé, hein, de trouver, par exemple, une proie ou la présence d'un lynx, parce qu'il y a un grand corbeau qui, lui, donne l'alerte, ou un jet, ou d'autres espèces comme du renard ou des écureuils, quoi.
Oui, vous dites qu'il y a une grande solidarité, alors c'est presque un peu anthropomorphique, mais une grande solidarité entre les animaux de la forêt, c'est-à-dire que quand il y en a un qui a vu le lynx, il le dénonce à
mais
tous les autres.
Absolument. Non, mais c'est vraiment le cas. Ouais. Et encore une fois, c'est vraiment des choses où moi, j'attends parfois le soir, j'entends d'abord un chevreuil aboyer, et je me dis, là,
il se peut qu'il arrive. Et effectivement, dans certains cas, il vient et c'est annoncé par une autre espèce, en fait.
Alors, vous pratiquez l'affût en tenue de camouflage, des longues heures d'attente hein, pour vous faire oublier. Je vous propose d'écouter un artiste naturaliste à l'origine de bien des vocations, Robert Hénard. Il évoquait en 1986 cet art de l'affût sur France Culture.
Alors, durant l'affût, au début, on est encore envahi par toutes sortes de choses, des listes de courses qu'il faut faire, de téléphones qu'on a oubliés. Puis peu à peu, ces choses-là s'en vont, peut-être un peu comme ceux qui font de la méditation, se dépouillent peu à peu des couches qui nous entourent, des plures d'oignons. Et puis, on en arrive à n'être plus qu'une espèce de noyau très sensoriel, les yeux grands ouverts, les oreilles grandes ouvertes, l'odorat peut-être aussi, extrêmement attentif, et attentif à ce moment-là à tout ce qui nous entoure. Ça peut être des petits détails, l'araignée qui avance sa toile peu à peu, tout près de soi, un mulot qui gambade, une grive qui fait sa migration vers l'Afrique, un lézard encore attardé qui fouille un peu dans les feuilles avant de disparaître, et on sait qu'il va être hiverné pendant tout l'hiver, et tout à coup on se rend compte qu'on est un élément de cette nature faite de mille petits détails qui nous dépassent complètement. Et je crois que c'est une grande leçon, l'affût. Ça prend beaucoup de temps, un affût, ça c'est pas l'affaire d'une demi-heure. Un bon affût, c'est plusieurs heures d'observation répétées, et c'est un enrichissement extraordinaire.
Robert Hénard, en 1986, et on voit que vous êtes quelqu'un de très attentif, Laurent Gélin, puisqu'effectivement, derrière cette archive, on a mis un bout de l'ambiance sonore du film. Et vous l'avez tout de suite identifié, je ne vous avais pas prévenu, vous m'avez dit, c'est l'ambiance sonore
oui,
du film.
Oui, parce qu'on entend de l'autour des palombes, et puis c'est l'enregistrement que Boris Jolivet a mis dans le film. Donc bien sûr, oui, je reconnais les sons de mon film.
Ouais. Ouais, et puis on voit surtout que vous êtes attentif, hein, le moindre petit chant d'oiseau, vous l'identifiez. Il comparait dans son interview l'affût à une forme de méditation. Vous partagez cette impression, Laurent Gélin? C'est une forme de méditation?
C'est assez étonnant, parce que pendant les avant-premières, j'ai eu beaucoup ces questions-là, où qu'est-ce que vous faites pendant toutes ces heures, voire ces jours. Parce qu'effectivement, il y a des affûts qui durent des jours, littéralement. Et je ne m'ennuie pas. Et ça, je ne peux pas l'expliquer, parce que je ne suis pas forcément patient dans la vie du quotidien. Ouais. Et cependant, vous me mettez assis dans la forêt et je ne vais pas m'ennuyer. Et je pense que c'est le cas de beaucoup, beaucoup de naturalistes. À partir du moment où vous comprenez en fait ce qui se passe autour de vous, et c'est ça qui se passe en fait, c'est que vous comprenez que l'oiseau qui chante au-dessus de votre tête, il n'est pas juste en train de chanter pour vous émerveiller les oreilles, il est littéralement en train de communiquer. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de comprendre cette communication entre toute la faune qui nous entoure.
Ouais. Comprendre, on verra d'ailleurs que parfois certaines situations vous échappent. Et puis, il vous arrive évidemment d'être surpris. Vous racontez dans le livre Lynx, qui accompagne le film, qu'une nuit, donc vous avez passé de nombreuses nuits hein, dans la neige avec votre duvet, une nuit vous êtes réveillé, mais presque surpris par un lynx.
Ça, c'est probablement l'une des plus belles, un des plus beaux souvenirs de cette aventure. C'est que Boris Jolivet, dont je parlais tout à l'heure, qui a sonorisé le film et qui a fait un boulot extraordinaire.
C'est son métier, hein, capter des sons de nature.
Il est audio-naturaliste et on a vraiment travaillé ensemble. Et par contre, malheureusement, pauvre Boris, il est venu plusieurs fois pour enregistrer l'appel du lynx. Malheureusement, la météo a fait qu'il n'a pas réussi à l'enregistrer. Donc moi, j'ai repris un petit peu son travail avec un gros micro parabolique. Et j'ai passé effectivement plusieurs dizaines de nuits sur le même spot. Et une nuit, à 4h10 du matin, le 17 mars 2020.
Ça, ah oui, c'est précis.
Ah oui, non, mais alors là, ça,
un
c'est...
souvenir marqué, gravé.
Ah, mais ça, c'était extraordinaire. C'est-à-dire, il appelle, le mâle que je connais très bien, hein, appelle à une cinquantaine de mètres. Là, j'ai un enregistrement parfait. Et puis ensuite, j'entends ses pas dans les feuilles. Je garde le casque évidemment sur les oreilles. Le micro tourne toujours, ultra sensible. Et je l'entends marcher sur le chemin sur lequel moi je suis allongé dans mon sac de couchage. Et à un moment donné, je n'entends plus rien. Je ne sais plus où il est parce que je suis caché par la parabole. Et j'entends... Et en fait, le lynx est au bout de mon sac de couchage et respire dans mon micro. Et là, je bouge très légèrement la parabole qui me cache la vue. Et là, j'ai un lynx qui me regarde droit dans les yeux, dessiné par la lune. C'est extraordinaire.
Ça fait froid dans le dos. On a quand même une petite trouille à ce moment-là.
Et ben ça, c'est marrant parce que j'ai vraiment eu, pendant un quart de seconde, j'ai eu la trouille. C'est-à-dire, je suis redevenu le primate d'il y a 3,5 millions d'années et amplifié par le micro,
le râle du lynx n'était pas un râle du lynx, c'était le râle d'un vrai grand fauve, quoi. Et donc, vraiment, c'est de l'instinct. J'ai eu le sang qui s'est glacé pendant un quart de seconde. Je me suis repris immédiatement, mais ça a été une sensation très bizarre.
On rappelle que vous ne risquez rien, hein. Le lynx ne s'attaque pas.
Non, mais bien sûr que non. D'ailleurs, quand il m'a regardé d'une façon très curieuse. Il est allé marquer, d'ailleurs, sur le caillou juste en face. Donc, il a uriné. Il est redescendu dans la... Mais c'était une superbe rencontre.
Ouais. Alors, vos observations, c'est aussi l'occasion de mieux connaître cet animal qui est encore assez mystérieux. Pour les scientifiques, on dit beaucoup que c'est un animal solitaire. Vos images montrent que ce n'est pas tout à fait le cas, finalement.
Oui, alors ça, c'est vraiment des choses qu'on ne peut pas deviner sur un an ou deux. En fait, moi, j'ai entendu, par exemple, le lynx appeler au mois de juin. Et je travaille depuis 10 ans avec les biologistes du Cora en Suisse, et je leur ai dit, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que j'entends régulièrement au mois de juin des appels ? Et une année, on avait un mâle et une femelle qui avaient des colliers émetteurs, et on se rend compte que le mâle, en fait, est dans la tanière, alors que la femelle est loin de sa tanière. Et on sait qu'il y avait des jeunes. C'est-à-dire que le mâle, en fait, pendant le mois de juin, appelle pour rencontrer sa femelle et faire la rencontre des jeunes. C'est ce que je spéculais au début. Et finalement, les biologistes ont fini par se mettre d'accord avec moi, parce que moi, évidemment, c'est pas scientifique ce que je leur dis. Hein.
Ouais. C'est vrai que dans votre film, on suit toute une portée, c'est-à-dire la femelle avec ses 3 jeunes, chatons, hein, on dit chatons ouais, pour les lynx, que l'on voit grandir. Et vous avez réussi à capter des petits moments très intéressants de ce moment d'abord où elle les protège, puis quand ils grandissent un peu, où elle leur signifie par des gestes assez explicites qu'il va falloir commencer à penser à se débrouiller tout seul. Tout ça, c'est très subtil. On imagine le temps qu'il a fallu pour pouvoir mettre tout ça en évidence.
Oui, mais c'est vraiment au fil des mois, je pouvais observer effectivement que, par exemple, sur une proie, au début, la femelle va laisser les petits se nourrir en premier. Et puis, au fil des mois, je me rends compte que la femelle, c'est elle qui commence à manger en premier. Et les jeunes restent en dernier. Et s'il y en a un qui ose s'approcher, ben, elle le remet à sa place, quoi.
Ouais. Alors, parfois, l'attitude des lynx que vous observez vous surprend. Un jour, par exemple, vous avez vu la femelle que vous suiviez, accompagnée de sa fille, et elle rencontre un mâle. Un mâle, par contre, que vous n'aviez jamais vu. Et elle se met à pousser un cri étrange.
Quel cri impressionnant! Je n'avais encore jamais entendu la mère feuler comme ça. Je me demande si elle connaît ce mâle ou si elle le rencontre pour la première fois. La jeune curieuse, elle, s'approche comme pour faire connaissance. Je ne comprends rien à cette situation. Il me reste encore beaucoup à découvrir sur le félin.
C'est un extrait de votre film, hein, Laurent Gélin. Pourquoi cette scène vous a à ce point laissé perplexe ?
Alors là, ça m'a complètement bluffé, parce que je suis en train de filmer un gros mâle que je ne connais pas, sur un secteur que je connais assez bien. Et j'entends un bruit bizarre, et je me rends compte en fait que la femelle que je connais est à côté du gros mâle. Et elle est vraiment très clairement pas contente de sa présence. Et elle grogne, alors qu'on est en pleine période de reproduction. Effectivement, ce mâle, je ne le connais pas, donc j'imagine que c'est probablement un mâle voisin qui est venu la voir. Elle est suitée, elle a sa jeune. Mais ce qu'il y a de plus encore incroyable, c'est que la jeune vient s'approcher et fait des tout petits coups de tête avec des tout petits bruits qu'on entend d'ailleurs dans le film pour faire connaissance de cet individu-là. Donc là, effectivement, je suis complètement perdu. Quoi.
Il y a des scientifiques auxquels vous avez montré ces images et qui étaient aussi perdus que vous.
Oui, alors les scientifiques, ce qu'il y a de super intéressant, parce que justement, je travaille avec ceux qui sont du Cora, et forcément, quand moi j'ai mes propres théories, eux me disent « Oh là, attention, c'est pas scientifiquement prouvé, donc on peut rien dire », mais moi forcément, j'ai mes propres interprétations.
Allez, on poursuit nos investigations sur la piste des lynx, dans le Jura, avec le réalisateur et photographe Laurent Gélin, dans un instant. Ça te fait le masque d'or, et ça te rend, et ça te sort. Yes.
tu te noies. Quand tu rêves, moi, moi, je rêve de lui. J'aime quand tu te sers. J'aime quand tu te noies. Quand tu rêves de moi, moi, je rêve de lui. Et ça te rentre, ça te sort.
C'était Masque d'or, chanté par Fishback.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Il y a une dame qui a trouvé un chevreuil mort hier soir. Je suis venu ce matin. Je ne savais pas exactement où était la proie, donc j'étais en train de chercher autour. Et j'ai failli marcher. J'ai failli marcher sur un lynx. J'arrive pas à y croire. Et il dort. Là, j'avoue que c'est quand même une expérience incroyable.
Notre invité, Laurent Gélin, la voix presque tremblante à quelques mètres d'un lynx. Vous vous souvenez évidemment précisément de cette rencontre-là.
Oui, bien sûr, parce que là, ça, c'est des rencontres qu'on fait pas tout le temps. Une dame m'appelle et me dit, écoutez, mon chien a trouvé un chevreuil mort. J'ai dit, bah, je vais chercher, mais sauf qu'évidemment, la localisation était très, très large. Donc, je cherche le nez par terre dans les foyards, dans les jeunes hêtres. En automne, c'était d'ailleurs très beau. Et au bout d'une demi-heure, je tombe sur un animal qui est allongé, qui me regarde, mais qui n'est clairement pas mort, et c'est un lynx. Il doit me regarder depuis au moins une demi-heure, le nez par terre, et je m'adosse à l'arbre, je m'accroupis, et je le regarde, il me regarde, et comme tous les chats peuvent faire, au bout d'un certain temps, il cligne des yeux et s'endort devant moi. Et là, je passe un temps extraordinaire avec un animal totalement sauvage, dans un milieu mais magnifique, totalement roux, avec des érables et du hêtre. Je finis même par lui parler, donc là je pense qu'il faut que, à un moment donné, je prenne du recul. Et c'est une sensation qui est juste incroyable d'apaisement et de bien-être, quoi.
Que vous avez voulu partager avec votre famille, hein.
Alors là, effectivement, au bout d'une heure, j'appelle ma femme et je lui dis, écoute, là, il y a un lynx, c'est une femelle, qui est tellement peu craintive qu'il faut vraiment que tu amènes Maël, mon fils. Donc tu sors Maël de l'école immédiatement, tu viens très vite. Parce que là, j'ai jamais vu ça de ma vie.
Il a dû être ravi, votre fils.
Ah, mais oui, c'était une surprise.
Exfiltré de l'école pour une sortie buissonnière, mais qui valait vraiment la peine d'être vécue. On pourrait croire, en racontant ces histoires, que finalement, c'est facile de rencontrer un lynx et que cet animal n'est finalement tellement pas farouche qu'il se laisse approcher. C'est évidemment faux. Vous passez des fois des mois entiers sans même ne serait-ce que l'apercevoir. Mais pour vous, c'est pas une perte de temps, parce qu'on le voit bien dans votre film. C'est l'occasion de filmer tout le reste de la faune sauvage. Là encore, vos images sont superbes. Alors, on voit des belettes, des chamois, des renards, des faucons pèlerins, des grands-ducs. Et puis, il y a cette scène. Là, vous avez réussi à capter un instant de forêt très, très rare avec des gélinottes. Racontez, c'est un oiseau.
Hein. Alors ça, la gélinotte des bois, c'est une petite poule des bois, en fait, qui ressemble à rien, pour être très franc. En fait, c'est très beau, en fait, quand on la regarde, mais c'est une petite poule qui n'existe que à partir de 800-900 mètres d'altitude dans le Jura. Et c'est un oiseau qu'on n'entend pas et qu'on ne voit pas. C'est un chant qui est suraigu chez le mâle. Et comme c'est un oiseau qui est très, très mimétique, les gens ne connaissent pas cet animal-là. Or, c'est un oiseau qui est emblématique des forêts riches, parce que c'est pas un oiseau migrateur, il faut qu'il reste dans un endroit, et donc c'est vraiment un très bon indicateur d'une forêt qui est en bonne santé. Et par conséquent, moi, je voulais évidemment filmer cet oiseau qui est extrêmement discret,
Et juste au-dessus de chez moi, j'entends le mâle très régulièrement. Je me dis, c'est pas possible, la femelle doit nicher. Et tous les jours, pendant 3 semaines, je cherche mètre par mètre. Et je finis par tomber au bout de 3 semaines sur la femelle. Et j'installe mon affût. 4 jours d'affût. Alors là, pour le coup, je reste toute la journée dans l'affût. Et j'ai la chance de voir l'éclosion. C'est-à-dire que, comme ce sont des oiseaux qui quittent le nid au bout d'une heure ou deux, eh bien, je vois la femelle un peu inconfortable. Je vois les poussins qui sortent de sous elle. Et quelques heures après seulement, ils disparaissent. Donc c'est vraiment un instant de nature qui ne dure que quelques instants sur toute une année. C'est assez rare.
C'est des moments inoubliables pour vous. Ça vaut toutes les heures d'attente que vous avez passées.
C'est pour ça qu'en fait, je pense que franchement, ces moments dans la nature, on ne peut pas s'ennuyer. Parce qu'encore une fois, on voit ça. Moi, encore maintenant, je pense à ce moment-là, je me dis que j'étais ultra privilégié.
Après avoir filmé pendant plusieurs années, c'était une gageure de réussir à faire un film qui se tienne, de raconter toute une histoire. Parce que votre film, Lynx, qui est sorti mercredi au cinéma, c'est pas une succession de plans qui n'ont rien à voir. Vous racontez toute une histoire, la vie de la forêt, avec un début, une fin, mais ce sont des plans disparates qui ont été filmés sur plusieurs saisons. Alors comment vous y êtes pris ?
Mais en fait, c'est pour ça que j'aime pas qu'on dise que c'est un documentaire. Ouais. Parce que c'est vraiment monté pour raconter une histoire. Et ces histoires-là, elles racontent les problématiques que le lynx peuvent rencontrer d'une façon très générale dans le Jura ou ailleurs. Donc effectivement, l'histoire de suivre une famille de lynx nous amène à découvrir que malheureusement, il y a le morcellement du territoire, il y a du braconnage et il y a heureusement aussi des très très beaux moments de nature.
Et puis les humains ne sont pas absents hein, de votre film. On voit des promeneurs, des bûcherons et puis aussi des scientifiques dont vous êtes l'ami. Et ils étudient cet animal. Vous les accompagnez en pleine nuit dans la forêt et vous montrez leur travail sur le terrain.
Ce soir, ils ont trouvé une proie sur le territoire de la femelle. Autour du chevreuil mort, ils tendent des câbles qu'ils cachent ensuite sous la neige et les feuilles. Quand la mère retourne sur sa proie, elle ne voit pas le piège qu'ils lui ont tendu. Endormie, son état de santé vérifié, les biologistes m'apprennent qu'elle sera relâchée à plusieurs centaines de kilomètres de là. Elle va participer à la renaissance d'une nouvelle population, comme autrefois ses ancêtres dans le Jura. Je sais que les scientifiques tentent de remédier à une situation difficile, mais leur relation au lynx est bien différente de la mienne. Et je suis déconcerté quand je vois partir la femelle que j'ai suivie pendant un an.
Relâcher un lynx, mais pas n'importe quel lynx, un lynx que vous avez suivi pendant plusieurs années, Laurent Gélin. Et là, effectivement, vous, ça vous perturbe un peu, cette idée qu'elle va laisser sa fille, qui est encore jeune, sur son territoire, et puis elle va être parachutée, en quelque sorte, à des centaines de kilomètres. Pourquoi est-ce nécessaire de faire ça ?
Alors, ce que je tiens d'abord à préciser, c'est que dans le film, toutes les anecdotes et toute la trame de l'histoire est vraie. C'est-à-dire qu'évidemment, je ne l'ai pas forcément vécu avec les mêmes individus. Par contre, ce que je raconte là et ce que vous racontez là, c'est vrai. C'est-à-dire qu'un jour, je suis appelé par les scientifiques, on doit faire une capture sur une dépouille de chevreuil et je sais, sur ce secteur-là, que c'est soit la femelle, soit le mâle que je connais. Et quand on attrape la femelle, je leur dis, mais là, vous savez que cette femelle-là, elle est suitée, elle a encore une jeune. Et évidemment, c'est sur un gros programme européen LIFE de réintroduction du lynx dans le Palatinat en Allemagne. Donc évidemment, eux vont pas prendre ça en considération. Ouais. Mon sentiment à moi, quand on attrape cette femelle, c'est que d'abord, je la touche. C'est des sensations assez bizarres. Je la touche alors que je l'ai vue à des dizaines de mètres de moi, des centaines de mètres de moi,
très furtivement. Une fois qu'elle a été endormie.
Et c'est un sentiment très très ambigu, parce que oui, je suis content qu'elle soit là, mais je suis tellement triste finalement qu'on va me l'emmener en réalité. Ouais. Et puis j'ai vraiment la question, c'est en tout début de période de capture, donc c'est au début février, et là j'ai une vraie question, c'est est-ce que cette jeune femelle qui va rester seule va s'en sortir ou pas ?
Alors ils le font pour éviter la consanguinité, hein, pour favoriser le brassage génétique. pour la préservation de l'espèce, ça a du sens. Mais vous, ça vous inquiète pour cette femelle. Alors pour savoir ce qu'elle deviendra, cette jeune femelle, faut voir le film. N'en racontons pas plus.
En tout cas, le projet Palatina s'est bien passé et la femelle qui a été capturée effectivement en Suisse a fait des jeunes dans le Palatinat.
Comment se porte la population de lynx dans le Jura aujourd'hui? Combien d'individus?
Alors on est sur à peu près 150 individus sur toute la chaîne du Jura et malheureusement on est encore sur une espèce ultra fragile. Hein. On a un territoire qui est très limité maintenant, on a un morcellement du territoire, donc les individus ne peuvent pas vraiment circuler librement de massif en massif. Idéalement il faudrait ce qu'on appelle une métapopulation de 1000 individus pour ne plus que génétiquement il y ait un souci. Or, 1000 individus, il faudrait qu'il y ait un brassage entre la forêt noire, entre les Vosges, entre les Alpes, et c'est pas du tout le cas.
Maintenant que le film est fait, vous continuez d'aller régulièrement sur le terrain prendre des images de lynx, j'imagine, Laurent Gélard?
Alors, ces derniers temps, un petit peu moins, parce que j'ai eu la sortie du film et ça m'a demandé beaucoup de travail, mais je meurs d'envie. Là, c'est la période de reproduction qui commence juste maintenant, et j'y suis allé une fois ou deux, et j'ai eu la chance de suivre les traces de mon mâle. Et j'étais bien content de pouvoir le suivre pendant quelques heures.
Nous allons mettre quelques-unes de vos photos de lynx sur la nouvelle page Instagram du Temps d'un Bivouac. Et puis surtout, il faut aller voir votre film superbe. Il s'intitule Lynx. Il est dans les salles de cinéma depuis mercredi. C'est vraiment un film à ne pas rater. Et je signale aussi le livre qui raconte votre quête et les secrets de tournage Lynx aux éditions Salamandre. Un grand merci à vous, Laurent Gélin, et bon retour en Suisse.
Eh bien, merci beaucoup.
Et dans un instant, on poursuit nos explorations des falaises d'Étretat à la côte de Granit Rose de Bretagne en passant par les gorges du Verdon. Nous allons nous intéresser à la façon dont l'eau sculpte les paysages de nos régions avec le passionné de géologie Georges Fetterman. To be back, chanté par Métronomie. Et merci à Valentine Chédebois qui signe la programmation musicale du Temps d'un Bivouac.
Si l'on chemine entre Dieppe et le Tréport, sur la côte d'Albâtre, on trouve Criel-sur-Mer, petite station balnéaire discrète, mais qui peut s'enorgueillir d'abriter la plus haute falaise de craie d'Europe, 107 mètres. Jean Mauger parle de lui comme d'un vieux criellois. Il a toujours vécu ici et fut même pendant 13 ans le maire de la commune. Alors toutes ces histoires de falaises qui s'effritent et s'effondrent, il les connaît par cœur.
Une falaise, ça a toujours tombé et ça tombera toujours. On peut prévenir la sécurité des habitants, mais on ne pourra jamais empêcher les falaises de tomber, sauf de doux rêveurs qui ont cru à un moment qu'on pouvait tout faire contre la nature. Mais malheureusement non, la nature gagne toujours.
Extrait de Enquête de Région diffusé sur France 3 en 2017. Bonjour Georges Fetterman.
Bonjour.
Passionné de géologie, vous avez publié Les forces de la nature en France aux éditions Delachaux et Niestlé. Nous partons régulièrement avec vous à la découverte des paysages de nos régions. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la façon dont l'eau sculpte les paysages. Il y avait à l'instant l'exemple des falaises de la côte d'Albâtre qui font face à la Manche en Seine-Maritime. Elles s'érodent particulièrement rapidement, ces falaises, Georges Fetterman ?
Ah oui, le rythme actuel est estimé à peu près à 10 cm par an. Alors à l'échelle géologique, c'est énorme. Hein. En 10 000 ans, on fait 1 km de recul, comme le montre l'aiguille de Belval, par exemple, qui se trouve au nord d'Étretat, auquel on peut accéder par un chemin de randonnée, en quittant un peu l'Étretat, où il y a beaucoup, beaucoup de monde. C'est au nord, à 2 km au nord. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir 1 km de recul de falaise en 10 000 ans, à peu près.
En 10 000 ans, c'est-à-dire que cette aiguille que l'on voit dans les flots, elle était raccrochée au continent il y a 10 000 ans.
Absolument, elle faisait partie de la côte.
Alors dans votre livre, Georges, vous expliquez que ce n'est pas la mer, contrairement à ce que l'on pense généralement, que ce n'est pas la mer la principale responsable de l'érosion de ces falaises.
Non, contrairement à ce qu'on pense, effectivement, l'érosion vient du haut plutôt que du bas. Et on peut imaginer la pluie qui pénètre dans les fissures de la falaise et qui fonctionne comme une scie géante.
Ouais.
Et s'infiltre et fait effondrer des pans entiers de falaise, mais par le haut.
Ouais. Donc
et
c'est la pluie.
Mer, c'est le balai en bas, qui use un petit peu, évidemment, hein, mais l'essentiel du travail vient du haut, l'eau de pluie, l'eau d'infiltration.
L'eau de pluie qui érode ces falaises, où est-ce qu'on trouve en France les falaises qui s'érodent le plus rapidement? C'est justement sur cette côte?
Oui, c'est la côte normande et de manière très spectaculaire. Et donc on voit aujourd'hui régulièrement d'ailleurs des émissions montrant des maisons qui restent pour quelque temps encore à la limite de la falaise, mais qui n'ont à coup sûr aucun avenir. Effectivement, comme c'est dit dans le reportage de présentation, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, on a cru, c'est une des leçons sur les forces de la nature,
et oui,
qu'on pouvait tout faire, que l'espèce humaine pouvait contrecarrer l'érosion des falaises, par exemple. Non. On réussira quelques années, mais pas quelques dizaines d'années.
Alors la mer sculpte littéralement certains rivages, comme la côte de granit rose en Bretagne, dont vous dites que c'est l'un des plus beaux paysages, hein, là aussi.
Oui, et plus beaux paysages de Bretagne, de France, et pour moi, là aussi, du monde.
Ouais.
C'est une pure merveille. Alors là, la patine du sculpteur, elle est donnée par l'eau des vagues,
ouais,
et des courants qui arrondissent les angles. Mais l'essentiel de l'usure, c'est dans les fissures du granit. N'oublions pas que le granit, au départ, c'était un magma. Et quand il refroidit, on imagine une grosse croûte de pain qui refroidit, qui se craquelle. Et donc, il y a des fissures qui se mettent en place. Et ces fissures sont l'endroit de pénétration de l'eau venue du haut.
Mmh.
Et le sculpteur, vous savez qu'au dernier moment, il donne un petit coup pour brosser, pour que ce soit bien lisse, bien arrondi. Et c'est ça qu'on voit. C'est une pure merveille. Plus la couleur. Oui, rappelons que la couleur est due à un minéral qui s'appelle le feldspath. C'est un des trois minéraux du granit. Donc si le feldspath est rose, le granit est rose.
Et puis dans ces forces de la nature, il y a aussi les tempêtes. Et quand la mer s'allie aux tempêtes, là ça peut faire vraiment des dégâts considérables. Vous évoquez par exemple la tempête Xynthia qui a sévi du 26 février au 1er mars 2010.
Oui, où là on est sûr que l'effet catastrophique est dû au cumul de conditions météo exceptionnelles avec des vents terrifiants, mais aussi une période de grande marée. Donc
ouais,
c'est ce cumul des deux situations qui a généré la tempête Xynthia qui a fait des dégâts considérables. Mais là encore, difficile de faire la part des choses entre ce qui est tempête qui survient et qui est déjà survenue à de nombreuses reprises et les effets du réchauffement climatique. Mmh. On peut ajouter les effets probables du réchauffement climatique à ces autres conditions.
Oui, parce que vous dites qu'à ce moment-là, en quelques heures, la mer a investi l'espace que les hommes avaient gagné sur elle en 20 siècles, puis avant de se
retirer. Les fameux polders.
Oui. C'est-à-dire que vraiment là, la mer est rentrée dans les terres, elle a dévasté à la fois les ports, les digues, les sites ostréicoles, les dunes et les plages.
Elle regagne la place qu'elle occupait il y a quelques centaines ou petits milliers d'années, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est chez moi, je reprends ma place, c'est un petit peu ça.
Alors elle rabote, elle sculpte, est-ce que parfois la mer crée de nouvelles terres émergées ? Ou est-ce que la surface de la métropole ne fait que se réduire avec tout ça ?
Non, bien sûr, il y a des agrandissements qui se font, notamment au niveau des estuaires ou des deltas, où il y a des quantités phénoménales de minéraux qui sont apportés par les rivières, que ce soit la Loire, la Seine, dans la Somme.
Ouais.
On voit, c'est la gadoue que tout le monde connaît, et cette gadoue, elle gagne du terrain sans cesse, mais ça vient de l'intérieur. C'est l'usure des montagnes qui forment les baies et ces roches dont vous parlez, cette gadoue dans lesquelles on ne marche pas, où vous savez, on dit qu'il y a des sables mouvants, etc. Ouais. Les risques sont pas énormes de tomber dans des sables mouvants, mais d'être collé aux pieds et de plus pouvoir bouger, oui, réellement. Et ça, c'est de la matière venue des montagnes.
Ouais. Alors, il y a aussi vous évoquez c'est un peu un cas particulier, un cas insolite, le sillon du Talbert, qui forme une presqu'île non loin de Paimpol et de l'île de Bréa.
Oui, c'est qu'il y a c'est un peu la même chose pour un endroit plus connu au sud, qui est l'ensemble de la presqu'île de Quiberon, qui mène à Belle-Île. Il y a un point d'accroche avec de la roche sous l'eau et là-dessus, les galets viennent s'accumuler, plus du sable, et il peut arriver qu'il y ait un sillon ou une presqu'île. En d'autres endroits, on va appeler ça un tombolo. Le tombolo de la presqu'île de Gien, par exemple, en Méditerranée. Tout ça, c'est de la matière qui est accumulée sur un point d'accroche qui est en général sableux ou caillouteux.
Alors il y a aussi l'eau douce qui sculpte nos paysages dans les terres. Et il faut là encore se méfier des idées reçues. Hein. Comment se sont creusées les célèbres gorges de France, comme les gorges du Verdon ou celles de l'Ardèche ?
Autre merveille parmi les merveilles, concurrentielle du Colorado. Oui, il y a une erreur qui est faite. Tout le monde, toute personne qui va là-bas dit « T'as vu, la rivière a creusé ». C'est pas tant la rivière qui a creusé, c'est plutôt le substrat qui est autour qui s'est soulevé. Le support de la rivière qui se soulève, poussé par les Alpes, par exemple. Et à ce moment-là, la rivière, elle, garde sa ligne de pente. Et donc, mécaniquement, elle s'enfonce. Et si vous ajoutez à cela le moment où, en période de glaciation, le niveau de la mer s'abaisse, comme le niveau de la mer s'abaisse, la rivière, elle aussi, a tendance à creuser. Mmh. Et elle le fait aussi en souterrain. Ouais. Préfigurant la formation de grottes, de cavités et des futures stalactites et stalagmites.
En fait, faut imaginer cette rivière comme une lame de scie circulaire et au lieu que la lame s'enfonce, c'est le sol qui remonte autour de cette scie. Elle reste toujours au même niveau.
D'ailleurs, il y a des engins mécaniques, des scies qui fonctionnent comme ça.
Ouais.
Vous avez les morceaux de bois qui remontent et donc la scie, elle reste à la même place et donc finalement s'enfonce de par le fait que son support se soulève.
On peut retrouver les photos de ces paysages que nous venons d'évoquer dans votre ouvrage. C'est vous pour la plupart qui les avez prises. Et puis il y a le récit de la formation de ces paysages dans votre livre, Georges Fetterman, Les forces de la nature en France, aux éditions Delachaux et Niesley. Merci Georges et à bientôt.
Merci beaucoup.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast avec l'appli Radio France. Et pour nous laisser un message, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou notre page Facebook. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.